Alors, je pense que vous êtes un petit peu comme moi. Il y a des histoires dans la Bible qui me marquent. Moi, j'ai deux histoires comme ça dans la parole de Dieu qui m'ont beaucoup marqué et qui me reviennent régulièrement dans la tête. C'est l'histoire de Uzza, de l'Ancien Testament, avec l'arche, n'est-ce pas ? Et au moment où il a touché l'arche, c'était terrible. Ça me revient régulièrement. Ça me montre à quel point Dieu est saint. On en a parlé ce matin. Alors, depuis ce matin, je ne sais pas, mais j'avais l'impression que vous avez prêché ma prédication. Vous avez parlé des mêmes choses. Voilà. Donc je vais répéter les mêmes choses, voilà, avec peut-être quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment ça, c'était vraiment ça. Et une autre histoire, c'est celle de Judas. Je pense à Judas régulièrement. Je ne comprends pas cet homme. Je ne le comprends pas. Tout le temps qu'il a passé avec le Seigneur, toutes ces années, et il est quand même allé jusqu'à le trahir. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il y avait un démon parmi eux. N'est-ce pas ? Bon, ce n'est pas de Judas que je vais parler ce matin. Hein. Il y a une prédication pour ça. Je vais un jour l'apporter parce que ça m'a beaucoup marqué. Mais ce que je retiens de Judas, vous m'entendez ? Ce que je retiens de Judas, c'est sa manière de voir la vie. Il avait, Judas, une vision terrestre de la vie. C'était tout de suite et maintenant. C'était l'argent. Il était un voleur. Oui. En fait, tout ce qui caractérise l'être humain, c'est ce que Judas avait. Il avait tous les défauts des êtres humains. La vision de Judas, c'était « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Pauvre Judas, souvent je me dis, mais s'il pouvait nous entendre, depuis sa trahison jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que de lui, hein. J'ai constaté une chose, c'est que la plupart de nos problèmes, peut-être même tous nos problèmes, viennent de notre manière de voir la vie. On aurait souhaité que lorsqu'on vient à Christ, que les choses changent réellement, parce qu'elles ont changé pour le Seigneur. Nous sommes une nouvelle création. Le frère a parlé ce matin du Saint-Esprit qui vit en nous. Mais dans notre quotidien, ce n'est pas vraiment ça. On souffre toujours avec ce problème de péché. Nous avons un problème avec le péché. Et donc Judas avait une vision terrestre de la vie. Alors, je pense que l'histoire de Judas est une mise en garde terrible de la part de Dieu. Ce matin, nous allons voir un texte. C'est Hébreux chapitre 11. Versets 13 à 16, et là vous allez me dire quel rapport avec Judas. Normalement, cet épître ne parle pas de Judas. Hein, voyez. Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. À cette prédication, j'ai donné le titre « Les pieds dans la poussière, la tête dans le ciel ». Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Le chapitre nous parle des croyants, les héros de la foi. Et cela donc sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, ce matin, contrairement à Judas, qui avait une vision terrestre de la vie, je vous invite, la parole de Dieu nous invite à avoir une vision céleste. de la vie. Alors très franchement, et ça c'est les questions qu'on se pose soi-même, est-ce que j'ai une vision céleste de la vie? Est-ce que quand un problème surgit, je vois ce problème au travers de la pensée de Dieu? Est-ce que je regarde la vie comme Dieu voudrait que je la voie? Est-ce que je regarde la vie avec le regard de Dieu? Alors, ce texte que nous venons de lire va nous donner trois clés pour avoir une vision céleste de l'existence, de la vie. Trois clés. Je ne serai pas long ce matin. Trois clés pour comprendre la vie comme Dieu veut qu'on la comprenne. La première clé pour avoir une vision céleste de la vie, c'est, écoutez bien, c'est comprendre la notion de la persévérance selon la Bible. Qu'est-ce que Dieu entend par persévérance? Je fais un peu de sport quand j'étais plus jeune, et la persévérance, c'est aussi pour cela que c'est bien d'apprendre le sport. Si vous avez des jeunes, encouragez-leur à faire du sport quand ils sont jeunes, parce que plus tard, ils n'ont plus trop envie. C'est mon cas. Voilà, mais j'ai beaucoup appris au travers du sport. La persévérance. Je faisais de l'athlétisme, il fallait aller courir très vite. C'était à l'époque de Carl Lewis, ceux qui ont mon âge. Voilà. Et je voulais être aussi performant. Mais il fallait être persévérant. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais des chaussures qui étaient trouées. Et en hiver, la neige entrait dans les chaussures. Et l'entraîneur m'encourageait à être persévérant. Mais la persévérance, selon les êtres humains, c'est pour atteindre un objectif. Et lorsqu'on atteint l'objectif, eh bien, on arrête tout. Parce qu'on a atteint l'objectif. Mais lorsque on n'a pas atteint l'objectif, on a tendance à baisser les bras. On arrête. La foi de ces personnes, dont il est question dans le chapitre 11, c'est une foi qui continuait, qui était toujours en action, alors qu'ils n'avaient pas reçu les promesses de Dieu. Une foi dans l'inaccompli. Abraham, Isaac, Jacob, tous ces croyants ont vécu dans la foi, mais ils n'ont pas vu la promesse de Dieu se réaliser. Pourtant, ils vivaient toujours comme s'ils avaient reçu, comme si ces promesses avaient été accomplies. Et ça, c'est une leçon pour nous. La Bible dit, dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais tu n'as pas de travail. Tu cherches du travail et tu ne trouves pas de travail. Et tu lis dans la parole de Dieu que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et tu ne comprends pas pourquoi tu pries chaque jour et tu ne trouves toujours pas de travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les bras. Et quand je parle de baisser les bras, c'est pas baisser les bras pour continuer à chercher du travail, mais baisser les bras parce que tu vas arrêter de prier, parce que tu ne vas plus à l'église, parce que tu n'as plus de communion avec Dieu, parce que tu es en colère contre Dieu, parce que Dieu n'a pas exaucé ta prière. C'est le parallèle qu'on peut faire. Vous savez, toute analogie a ses limites, mais c'est un parallèle qu'on peut faire. Peut-être que tu cherches un conjoint, une conjointe, et ça fait des années, et tu ne comprends pas. Alors qu'il semble que tu es fidèle au Seigneur, que Dieu ne réponde pas à ta prière. Et tu te démoralises, tu n'es pas content. Tu es en colère. Alors, soit tu arrêtes de marcher avec le Seigneur, soit tu fais un choix qui n'est pas biblique. Parce que tu t'es découragé. Où est-ce que nous en sommes dans notre vie chrétienne? Parce que la vie chrétienne, et ce matin on en parlait encore, mais elle est jonchée d'épreuves. Et puis, comment Dieu peut nous conduire dans notre vie s'il n'y a pas d'épreuves? Alors ce matin le frère a dit, est-ce que c'est agréable les épreuves? Il a dit, je ne répondrai pas. Il a raison. Parce que par définition, une épreuve n'est pas agréable. Mais comment Dieu peut nous conduire s'il n'y a pas d'épreuve? J'ai réfléchi à ça. Dans ma vie, je suis là où je suis actuellement à Paris, ce sont les épreuves qui m'ont amené à Paris avec ma famille. Donc quand il y a des épreuves qu'on s'énerve là, qu'on n'est pas bien, c'est une erreur. Parce que Dieu nous conduit souvent par les épreuves. Alors bien sûr qu'il nous forme, bien sûr. Alors c'est la puissance du Seigneur, cette capacité à faire tout en même temps. Voyez. Mais les épreuves nous aident à avancer. Mais quand on nous dit que les épreuves nous aident à avancer, c'est vraiment parce que Dieu nous dirige par les épreuves. Parce que qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, je me suis retrouvé à l'église de Paris. Est-ce que j'aurais voulu d'entendre une voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu dans ma chambre? Je me dis, Jean-Louis, tu vas à l'église de Paris? Alors je me dis souvent que si Dieu me fait ça, moi je tombe dans les pommes. Je ne pense pas que je vais supporter la voix de Dieu. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il se sert des épreuves pour nous amener. C'est ce qu'ont vécu tous ceux qui nous ont précédés. Tous! Alors le frère a dit ce matin, donnez-moi quelques noms. Mais tous les hommes de Dieu ont vécu des épreuves. On ne peut pas être chrétien et ne pas être éprouvé. Ça n'existe pas. Donc une fois pour toutes, nous devons changer notre manière de voir les choses, de voir la vie. Intégrons définitivement les épreuves dans notre vie. Cela appelle à la persévérance. Persévérer malgré l'inaccomplissement des promesses. Continuez à marcher avec le Seigneur. Alors peut-être que vous êtes en train de chercher un pasteur. Je le sais. Voyez, on prie pour vous, on prie avec vous. Mais on ne peut pas dire, parce que le pasteur n'est pas encore là, je baisse les portes, je m'en vais. Ça n'a pas de sens. Parce que justement, précisément, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. C'est quand le pasteur n'est pas là que tout le monde se serre les coudes. Qu'est-ce que tu sais faire, toi? Tu sais un peu parler, tu sais parler, oui? Bon, allez, tu prêches un peu, ok. Et toi, tu fais quoi? Et tout le monde est là. Et là, le Seigneur est heureux de voir ça. Mais ça n'a pas de sens de baisser les bras et partir. Partir où? Là où il y a un pasteur? Mais Dieu vous a mis là justement pour ça, pour que vous puissiez, voilà, que tout le monde puisse se serrer les coudes pour pouvoir avancer. Nous ne pensons pas comme Dieu. C'est ça notre problème. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ça notre problème. On est venu à Christ et on continue à penser comme avant. La persévérance. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, c'est ça. Vous savez ce que Dieu aime? C'est lorsqu'il fait des promesses et que la promesse n'est pas encore, on va dire, accomplie et que nous, on agit comme si elle avait été accomplie. C'est ça qu'il aime. Alors je prie, Seigneur, je vais prier, je veux un conjoint. Alors j'aime bien parler ça parce qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Mais il y a aussi des anciens qui ne sont pas encore mariés. Souvent on parle des jeunes, on fait la réflexion. On m'a dit, mais arrête de parler que des jeunes, nous, il y a des plus âgés qui ne sont pas mariés. Bon, donc ceux qui ne sont pas mariés. Je prie le Seigneur, Seigneur, je veux un conjoint. Je souhaite avoir un conjoint ou une conjointe, s'il te plaît, mon Dieu. Donne-moi un conjoint ou une conjointe. Dès l'instant où j'ai prié, j'ai fait comme si Dieu avait exaucé ma prière. Je commence à vivre et je vis parce que je considère que Dieu peut accomplir. Et je vis comme s'il avait fait. Et là, Dieu regarde, le Seigneur regarde, il est content. Mais alors, ce n'est pas le tour de prier. Est-ce que quand j'ai prié, Seigneur, aide-moi à avoir un conjoint ou une conjointe, est-ce que je suis en capacité d'avoir un conjoint ou une conjointe? Non, mais ce n'est pas le tour de prier. Tous ceux qui sont mariés savent que le mariage, c'est un travail. Non, mais parce que je sais que souvent les gens qui ne sont pas mariés s'imaginent tous le romantisme, ils sont là. C'est pas que ça. C'est une œuvre. C'est dans le mariage que votre foi là sera éprouvée. Si vous pensez que vous aimez le Seigneur, mariez-vous. Bon, là, je commence à. Ça tremble là. C'est une œuvre et c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. On travaille ensemble. On est une équipe. On veut avancer ensemble. C'est ça le mariage. Mais la persévérance, même si Dieu n'a pas exaucé notre prière. Et ce qui est terrible, c'est pour cela que je vous encourage ce matin, je nous encourage ce matin, c'est que lorsqu'on prie pour que Dieu exauce notre prière, et surtout quand on est dans une église qu'on a, on prie ensemble pour quelque chose, tous ceux qui vont se décourager. Vous aurez honte quand Dieu aura accompli la promesse ou qu'il aura exaucé votre prière. Attention, hein. C'est quand ça ne va pas qu'il faut être vraiment zélé. Hein. Et comme cela, après, vous allez vous souvenir. Seigneur, j'étais fidèle. Hein? Et là, vous êtes content, vous êtes dans la joie. La victoire est toujours à grandir. La victoire nous rend plus fort. Donc, c'est dans les moments difficiles qu'il faut persévérer. Parce que Dieu est là, et c'est la preuve même qu'on a la foi en lui. La persévérance, malgré les épreuves, malgré le fait que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies. Le Seigneur a promis qu'il reviendra nous prendre. Combien se sont découragés? Ça fait 2000 ans. Moi, je sais, hein, quand parfois je discute avec des inconvertis, on me dit, 2000 ans. Et tu y crois encore, toi? Il faut faire comme si le Seigneur allait venir ce soir. Alors, la question que je me pose souvent, quand je suis un peu bizarre, là, parfois dans les journées où c'est un peu compliqué, les gens lui, si le Seigneur vient ce soir, et tu le sais, la date est précise, là, comment tu te comporterais? C'est ça. Je suis sûr que si nous sommes tous, nous avons la certitude que le Seigneur vient ce soir, on ne serait pas dans cet état-là. Oh là là! Ce serait la folie, hein? Hein? On serait gentil avec tout le monde. Mais au fond, hein? Quand on est content comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit, ma mère elle me laissait chez des gens et elle était étudiante. Hein? Donc elle revenait me chercher tous les samedis. Vous pouvez être sûr que quand la journée de samedi commence, j'étais un garçon magnifique. Parce que j'allais voir ma maman. J'étais gentil, j'étais bien, je n'avais pas faim. Hein? Je ressentais rien. Je voulais juste maman. Alors, c'est comme ça que nous devons vivre, les frères et sœurs. Cette joie, c'est ça. C'est ça la foi. Et c'est cette foi-là que les croyants de l'Ancien Testament nous ont montré. Donc, la première clé pour avoir une vision céleste de la vie, la vision céleste de la vie, c'est de persévérer malgré les épreuves, malgré l'inaccomplissement des promesses de Dieu. On avance toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Deuxième clé, je n'ai que trois. Je viens de bien donner à l'avance, hein, comme ça permet de tenir un peu. Deuxième clé pour avoir une vision céleste de la vie, eh bien, c'est comprendre, alors là, mes frères, c'est comprendre, regardez le verset 13. Il est dit, « Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » La deuxième clé pour avoir une vision céleste de la vie, c'est de comprendre la notion de l'identité chrétienne, selon la Bible. Quelle est votre identité? Quelle est notre identité? C'est bizarre de dire cela quand même. Notre identité, on est des étrangers. Il faut intégrer ça. Nous sommes des étrangers. Et encore ce matin, quelqu'un fait allusion à cela. Nous sommes des étrangers sur la terre, les frères et les sœurs. Étrangers et voyageurs. Nous sommes en pèlerinage. Notre existence est temporaire face à l'éternité. Et encore ce matin, j'ai entendu quelqu'un me semble dire cela. Qu'est-ce que le temps de notre vie ici-bas sur terre par rapport à l'éternité? Nous sommes des étrangers. Alors bien sûr que nous sommes dans une période, depuis un moment d'ailleurs, où être étranger en France, c'est pas terrible. Hein? Immigré. Bon, soyez fiers d'être des immigrés pour... spirituels. Hein? C'est ça. Soyez fiers de ça. Être étranger. Si vous êtes des étrangers, que les gens se rendent compte dans la rue que vous êtes des étrangers, je crois qu'il y a une sœur qui a fait allusion à ça dans une prière, qui a fait allusion à ça, c'est que votre vie est vraiment spirituelle. Parce que moi, quand je suis dans la rue, on ne me dit pas c'est un Français. Vous voyez? Tu n'inspires pas ça. Mais j'aimerais bien que quand je suis dehors, au travail, n'importe où, que les gens puissent dire, ah ben, il n'est pas comme nous. Il ne se comporte pas comme nous. Vous voyez? C'est ça, être un étranger. Il faut que les gens remarquent que nous sommes des étrangers. Un étranger, lorsqu'il est dans un pays qui n'est pas le sien, eh bien, il n'est pas attaché aux choses parce qu'il n'est pas là pour longtemps. Il est en train de voyager. Il est en plus voyageur. Mais nous, nous sommes des étrangers qui aiment bien vivre ici, hein, dans ce monde-là. Hein. Quand j'étais J'y suis retourné, alors je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, 9 ans. Et quand je suis arrivé en France, j'étais dans la déprime. Alors j'ai envoyé des photos j'étais avec ma maman la semaine dernière et on a récupéré quelques photos. Et j'ai vu des photos, j'avais à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 10 ans, mais j'avais une tête. Mais ça se voyait que j'étais triste. Et je me souviens que mon père me disait à chaque fois, alors il voulait me faire des photos, mais arrête, mais souris un peu. Et ça m'énervait, parce que je ne souriais pas. Non seulement je ne souriais pas, mais j'étais vraiment pas content. Et vous savez pourquoi? Mais parce que j'étais un étranger. Et je le ressentais bien que j'étais un étranger. Parce qu'habituellement, quand j'étais en Côte d'Ivoire, tout le monde était comme moi. Et là, j'arrive dans un pays où les gens sont différents. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passait? J'avais la nostalgie de rentrer, de retourner chez moi. Vous voyez? Vous savez, ce qu'on vit parfois, il ne faut pas le prendre toujours d'une manière négative. Je me sers de ça pour grandir de ma foi. Parce que j'ai l'impression que Dieu me dit, est-ce que tu as la même nostalgie, tu as la même envie, maintenant que tu es chrétien, pour me rejoindre moi? Être un étranger, c'est quelqu'un qui est... Eh bien, qui ne peut pas se mettre à construire une maison comme s'il va habiter là. Vous voyez, nous vivons sur cette terre comme si nous n'allions jamais partir. Et nous vivons comme les gens de ce monde qui se comportent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et quand on voit un chrétien se comporter comme cela, on ne comprend pas. Nous sommes des étrangers, les frères et sœurs. Notre patrie, elle est céleste. Et nous allons en parler tout à l'heure. Mais il faut intégrer que nous sommes des étrangers. Il faut arrêter de chercher à copier le monde, à vouloir ressembler au monde. C'est une erreur de faire ça. Nous devons avoir cette envie de partir. L'apôtre Paul dira, dans Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Et quand on vit comme cela, vous savez ce qui se passe? On devient bizarre. Mais parfois, on n'aime pas être bizarre. Ça nous fait honte d'être bizarre, d'être différent des autres. Parce que si on se comporte comme cela, avec notre patrie céleste, avec cette pensée-là, on devient bizarre pour les gens. Il faut accepter d'être bizarre pour les gens. Dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui nuit à la parole de Dieu, hein, ou qui fait du mal aux autres. Il faut vraiment intégrer cela. Nous sommes des étrangers, frères et sœurs. Nous sommes de la même race, la race des élus. C'est ça. C'est comme cela qu'on doit se reconnaître. C'est tellement bon parfois quand on va dans un travail et qu'on rencontre un autre frère. Hein, on découvre que cette personne est un frère en Christ. Hein, il y a ce truc-là. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on doit se reconnaître entre nous. Et comment? Mais par le comportement. Vous savez, parfois... J'ai vu c'est un peu à notre honte là, j'ai vu des inconvertis se comporter mieux que nous. Hein. Ah, ça fait honte. Hein. Se comporter bien, et au point où je me suis demandé si ce n'était pas des chrétiens. Et là, je suis repris, vous voyez. Parfois, il y a des gens dans la vie, hein, dans notre entourage, qui ne sont pas à Christ et qui se comportent mieux que nous. Ça fait honte. Hein. Il faut vraiment intégrer l'idée que nous sommes des étrangers. Étrangers et voyageurs. Pas étrangers sédentaires. Hein. C'est étrangers et voyageurs. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Est-ce qu'on a conscience de ça? Parce que tout autour de nous, tout est fait pour qu'on pense qu'on est de la terre. C'est ça, notre problème. Hein? Il faut avoir son diplôme, et c'est normal. Hein? Chercher le diplôme, bien sûr. Il faut le travail. Hein? Il faut. Hein? Il y a certaines personnes qui, n'ayant pas de maison, trouvent qu'elles ont raté leur vie, parce qu'elles ne sont pas propriétaires. Je ne suis pas propriétaire, j'ai raté ma vie. Mais ça, c'est la pensée du monde. C'est la pensée du monde. Les jeunes frères et sœurs, vous qui voulez vous marier, recherchez quelqu'un qui n'aime pas le monde. Je vous le dis, hein, faites très attention à cela. Si vous faites cette erreur, si vous ne tenez pas compte de ça, vous allez avoir des problèmes. Trouvez un conjoint ou une conjointe qui n'aime pas le monde, qui n'est pas attaché au matériel, qui n'est pas attaché au monde, qui n'est pas ancré dans ce monde. Il faut quelqu'un qui a compris qu'il est de passage sur la terre. Si nous vivons comme cela, nous serons des personnes heureuses. C'est ça. Mais un chrétien sera automatiquement malheureux s'il vit comme le monde. Il faut choisir. Il faut choisir. Alors ça, c'était le deuxième point. Vous voyez, ça va très vite. La troisième clé. Il me semble que c'est peut-être la meilleure des clés, peut-être. Je ne sais pas. La troisième clé pour avoir une vision céleste de la vie, c'est comprendre la notion de la patrie, selon la Bible. Qu'est-ce que la patrie? Le verset nous dit, au verset 14, il est dit, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Alors, le verset 14 veut dire que le croyant véritable sent dans son cœur que cette terre n'est pas sa destination finale. C'est-à-dire qu'il vit comme quelqu'un qui sait très bien que ce n'est pas sa destination finale ici, sur terre. Au fond de lui, il y a ce profond, hein, ce désir profond, une nostalgie divine. C'est comme si, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est comme si il avait déjà rencontré le Seigneur et qu'il s'est éloigné et qu'il veut revenir voir le Seigneur. Alors qu'il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Il y a une nostalgie, une envie, un désir d'être auprès du Seigneur, dans cette patrie-là. La patrie céleste, eh bien, frères et sœurs, c'est surtout là où Dieu réside. L'envie d'avoir cette patrie céleste, ce n'est pas parce que c'est beau, hein, parce que quand vous lisez dans les textes bibliques, c'est indien. C'est inimaginable. Cet endroit est inimaginable. Mais ce qui fait que c'est très fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui réside dans cette patrie que nous voulons rejoindre. C'est le Seigneur. L'image, c'est... Alors, si vous regardez un petit peu le reportage de temps en temps, l'oiseau migrateur. L'oiseau migrateur, eh bien, c'est un oiseau qui fait des milliers et des milliers de kilomètres, qui souffre, qui va traverser des mers, des déserts, mais il n'arrive pas. Tant qu'il n'est pas arrivé là où il doit aller, il continue. Mais il souffre en route. Il souffre. Mais la finalité, la destination est tellement belle, est tellement bonne, que tout ce qu'il traverse sur la route, eh bien, ce n'est pas qu'il ne ressent pas la douleur, mais il n'en tient pas compte. C'est ça. Il n'en tient pas compte. Même s'il y a la douleur, on persévère pour l'objectif final. Et c'est aussi l'image que je vous ai donnée tout à l'heure de cet enfant qui est éloigné de sa famille pendant des années et qui est nostalgique, qui a envie de rentrer chez lui, qui a envie de retourner chez lui. C'est ça, c'est ce que nous devons ressentir, nous, les frères et sœurs. Notre patrie, elle n'est pas de ce monde. Notre patrie, c'est là où Dieu réside. Le verset 15 dit que si vraiment... vraiment le cœur, leur cœur était resté attaché au passé, ils auraient rebroussé chemin. C'est ce qu'ils apprend de dire. C'est-à-dire que s'ils voulaient retourner dans leur patrie, d'où ils sont partis, ces croyants de l'Ancien Testament, mais ils avaient le temps d'y retourner. Mais non, ils ont continué à persévérer, à avancer, parce qu'ils ont cru dans la patrie que Dieu leur a promis. Alors, il faut parfois lire le Nouveau Testament pour se rendre compte de la mentalité de ces croyants-là. Parce que nous, ce qu'on aurait fait, quand on lit l'histoire de ces frères-là, qu'ils appellent frères, quand on lit cela, ce que nous retenons, c'est ce qu'ils ont fait de mal. Ça, on est comme ça. Moi, je lis la vie d'Abraham. Si on ne me dit pas, si Dieu n'avait pas mis l'accent sur ce qu'il était vraiment un homme de foi, moi, je pensais plutôt à ce qu'il a fait de mal. Jacob, c'est pareil. Moïse, c'est pareil. Nous, on ne retient que ce qui ne va pas. Et c'est là où c'est très encourageant. Dieu ne retiendra de vous que ce que vous avez fait de bien. À condition, bien sûr, que vous confessez vos péchés. Mais Dieu ne retient de ses serviteurs que ce qu'ils ont fait de pire. Vous voyez, Dieu aime ses serviteurs. Et quand on parle de serviteurs, c'est ce que tu nous as rappelé ce matin, frère, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement celui qui prêche. C'est tout le monde. C'est ceux qui vont le matin, dimanche matin, le samedi, la veille, penser à nettoyer cette salle. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, c'est énorme. C'est grâce à cela qu'on peut s'asseoir, être dans la propreté et suivre. Hein? Et qu'on n'est pas assis là, qu'il y a un rat qui passe, et qu'on saute, on monte les pieds, vous voyez. On est serein et on écoute la prédication. Vous participez à ça, vous participez à l'œuvre de Dieu. Les êtres humains ne voient pas les choses de la même manière. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu aime ses servantes et ses serviteurs. Il nous aime. Et tout ce que nous faisons pour lui, il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. Et c'est pour cela que le texte nous dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alors la question que je me suis posée, forcément, est-ce que Dieu a honte d'être mon Dieu? Je ne parle pas le dimanche matin. Hein. Je parle de quand on est à la maison, quand on est au travail, quand on est dans le voisinage, hein, quand on est seul. Est-ce que Dieu a honte d'être appelé mon Dieu? Ça, c'est terrible, ça. Dieu est fier de ses serviteurs-là. J'aimerais bien qu'il soit fier de moi comme cela. Ces choses-là, il faut y penser lorsque ça ne va pas. C'est à ce moment qu'il faut se rappeler de ces choses-là. Aimer la patrie céleste, c'est aimer Dieu en réalité. C'est ça. C'est aimer celui qui réside dans cette patrie céleste. Ils désiraient, ces croyants-là, ardemment être dans cette patrie, là où Dieu réside. Ils avaient hâte de retrouver leur roi. Je ne sais pas où nous en sommes ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous avons ce désir-là? Est-ce que nous pensons à notre, j'allais dire, au retour du Seigneur Jésus? Alors, on préfère penser au retour du Seigneur Jésus, mais on peut aussi penser à notre mort. Hein. C'est moins agréable. Hein, c'est pas, hein, c'est notre, on n'aime pas ça, hein, la mort. Hein. On n'aime pas ça du tout. Et pourtant, on pourrait passer par là. Mais le fait d'appartenir au Seigneur, on peut être vraiment serein. Serein parce que dès que nous mourrons, nous sommes auprès de lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. C'est une phrase très très forte. Donc bien sûr que la question qu'on se pose c'est, est-ce que Dieu a honte de moi? Mais ça veut dire aussi que si nous ne pensons pas au retour de Christ, si nous ne pensons pas à rejoindre le Seigneur, est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas la foi? Parce que ça, c'est ce qui caractérise ceux qui ont la foi. Mais le fait de ne pas penser à rejoindre le Seigneur, de ne jamais y penser, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ne pensent jamais à ça. Ils sont tellement pris par le monde qu'ils ne pensent pas à rejoindre le Seigneur. Est-ce que cela veut dire que c'est un manque de foi? Est-ce que cela veut dire qu'on n'aime pas Dieu? Parce que nous préférons être sur la terre. On est tellement approchés. Il y a une chanson, quand j'étais très jeune, je pense que vous devez connaître cette chanson, qui dit « On ira tous au paradis ». Et comme cela, tout le monde est content parce que tout le monde ira au paradis. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement gentil que celui qui a fait cette chanson ne peut pas s'imaginer qu'un Dieu si bon, si gentil, puisse priver les gens du paradis. Bon, alors, Dieu est bon, bien sûr, hein, frères et sœurs. Mais il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. On ne peut pas tout d'un coup avoir vécu pendant des années sur la terre en haïssant Dieu et vouloir aller au paradis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au paradis, il y a Dieu. C'est lui le patron. Donc je ne peux pas haïr Dieu et puis être content d'aller au paradis. Je ne supporterai pas d'être au paradis. Parce qu'il y a les lois de Dieu au paradis. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi nous, on est content d'y aller. Parce que nous, on n'en peut plus d'être ici. On n'en peut plus, hein. Bon, il y en a qui me regardent et disent, oula, moi j'aime bien encore, hein. Moi j'aime bien quand même. C'est, hein, ouais. Bon, on aime bien aussi parce que, évidemment, que Dieu nous a donné la vie et qu'on a une famille à s'occuper quand même. Hein? Moi, c'est ce que je dis au Seigneur, et Seigneur, vous savez, parfois il y a des prières qui sont difficiles. Hein? Il y a des prières qui sont difficiles. Je n'arrive pas à dire, Seigneur, reviens maintenant. Pourtant, il faut aimer son avènement, vous voyez. Mais j'ai du mal à dire, Seigneur, viens maintenant. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des membres de notre famille qui ne sont pas sauvés. Donc demander au Seigneur de venir, c'est parfois compliqué, vous savez. Mais je le dis quand j'en peux plus, quoi. Vous voyez, quand j'en peux plus, là, j'ai dit, non, là, tu peux venir, Seigneur. Vous voyez. Mais le Seigneur, il n'est pas comme ça, le Seigneur. Lui, il viendra vraiment quand il faudra revenir. Quand il reviendra, c'est que c'était le moment de revenir. Alors maintenant, je dis, Seigneur, reviens quand tu veux, Seigneur. Parce que je sais que ça sera au bon moment. Voilà, vous voyez. Une vision céleste de la vie. Alors, ce matin, frères et sœurs, mon objectif, c'était de vous encourager à avoir cette vision céleste de la vie. Parce que sans cette vision céleste de la vie, on va au-devant de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on a une vision céleste de la vie, on regarde la vie avec les yeux du Seigneur. On ne regarde pas la vie comme d'habitude, comme les autres. C'est ce qui nous permet de traverser des épreuves. On vit en pensant à là-haut. On vit, on se laisse guider par les promesses de Dieu. On a le cœur qui est tourné vers le ciel. Et quand on a le cœur qui est tourné vers le ciel, on pêche moins. On pêche moins facilement. Quand on pêche, c'est parce qu'on n'était pas prêt. Hein. C'est parce que la seconde avant, on n'était pas connecté. Ça, c'est le mot d'aujourd'hui. Hein. On n'était pas lié, on n'était pas en communion avec Dieu. C'est pour ça que nous péchons. Systématiquement, quand l'être humain pêche, c'est parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. C'est une leçon. Hein. On n'est pas prêt. Il faut toujours se préparer. Toujours se préparer. C'est comme lorsqu'il y a un problème entre deux personnes. Vous n'allez jamais régler un problème avec un frère ou une sœur sans avoir prié. C'est pas possible. Souvent, on prépare notre liste des choses de manière très logique. Je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, puis ça va aller. Non, hein. C'est Dieu qui règle le problème. Voilà. Mais avant d'aller régler un problème, il faut être prêt. Il faut être prêt soi-même, et il faut qu'on prie pour que la personne avec laquelle on va parler ce soir, elle soit prête. Voilà. Mais quand on pêche, c'est parce qu'une seconde avant, on n'était pas en communion avec le Seigneur. Et malheureusement, nous avons toujours péché. Hein. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est cela. Mais si nous voulons éviter le péché, nous devons être en communion avec le Seigneur. Donc, avoir une vision céleste de la vie, c'est ce qui va régler beaucoup de problèmes. Alors, notre modèle, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui avait les pieds dans la poussière et la tête dans le ciel constamment. Ça vous a jamais impressionné de voir le Seigneur Jésus courir pour aller prier, se mettre à l'écart pour aller prier? C'est impressionnant quand même. Nous savons qui il est, mais il était tout le temps en communion avec son Père. Voilà. Alors je me dis, mais nous qui sommes des pécheurs, on ne pense pas à le faire. On ne pense pas à le faire. Lorsqu'on a une vision céleste de la vie, on prend de bonnes décisions. Les décisions que nous prenons, elles sont bonnes parce qu'elles sont spirituelles, parce qu'elles sont basées sur la parole de Dieu. Lorsqu'on a une bonne vision, une vision céleste de la vie. C'est pour cela aussi que nous avons autant de problèmes. Parce que nous ne sommes pas... concentré sur la parole de Dieu. Nous ne réfléchissons pas avec la parole de Dieu. Nous ne pensons pas avec la pensée de Dieu. Nous ne voyons pas avec la parole, avec la pensée de Dieu, avec les yeux de Dieu. Lorsqu'on a la vision céleste de la vie, la bonne vision en tout cas, la vision céleste de la vie, on est détaché du monde, mes frères. On est détaché du monde. On devient même insupportable pour les autres. Et même insupportable pour les autres chrétiens qui ne marche pas avec le Seigneur. Acceptons d'être comme cela. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Lorsqu'on a une bonne vision, lorsqu'on a une vision céleste de la vie, on est patient dans l'épreuve. C'est ce que étaient nos aînés, là. On est patient dans l'épreuve, parce qu'on sait où on va. Je vous ai dit, hein, moi j'attendais ma mère, je savais qu'elle allait venir, on pouvait faire n'importe quoi. Hein. Il n'y avait pas de problème, j'étais content. Voilà. C'est une leçon pour moi qui me revient régulièrement. Est-ce que nous sommes contents d'être chrétiens au point d'être patients dans l'épreuve? Parce que la joie d'appartenir au Seigneur rend patient. Si nous avons une bonne vision, si nous avons cette vision céleste de la vie, on devient patient. On supporte beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est aussi très fier d'être un étranger sur la terre. On n'est plus chez soi. Et le frère l'a dit ce matin aussi, lorsqu'on a une vision céleste de la vie, eh bien, on se sanctifie. On se sanctifie parce qu'on est des voyageurs. Quand on part d'un point A vers un point B, le point A, c'est un endroit terrible, qui ne glorifie pas Dieu, mais là où on voit, on sait que celui qu'on va trouver est saint. Donc en chemin, on se rend propre pour aller le retrouver. C'est ça notre vie. Hein. La vie chrétienne, c'est la sanctification. Hein, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, notre Père nous l'a rappelé ce matin. Hein, la sanctification jusqu'à rencontrer le Seigneur pour être comme il est. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Hein, nous nous sanctifions en voyageant. Et ensuite, ce sera le dernier élément hein, dans cette petite liste. Quand on a une vision céleste de la vie, on aime les gens. Est-ce qu'il y a encore des gens dans votre vie que vous n'aimez pas? Alors là, tous nos petits. Hein, il y a peut-être quelqu'un dans le quartier que vous n'aimez pas, hein, je ne sais pas. Et à chaque fois que vous le voyez, vous êtes là. Hein, c'est souvent dans le quartier, le voisinage. Là. Là-dessus, quelqu'un qui n'est pas gentil. Hein, hein, voilà. Et vous vous rendez compte que le Seigneur nous appelle à aimer les gens, malgré ce qu'ils sont. Parce que nous, Dieu nous a aimés alors qu'on était des pécheurs. Hein. Voilà. Voilà. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, et je vais terminer. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et très fort, affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous savez ce mot qu'on n'aime pas. Vous êtes morts, les frères et sœurs, on est morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ça notre espérance, les frères et sœurs. Et nous devons vivre comme cela. Et si nous ne vivons pas comme cela, on n'aura que des ennuis. Et quand je parle d'ennuis, je ne parle pas d'épreuves. Ce n'est pas la même chose. Hein. Les ennuis nous font couler. Les épreuves nous font grandir. C'est ça qu'il faut faire la nuance avec ça. Nous, on veut les épreuves parce que Dieu pourvoit quand il y a les épreuves. Voilà. Mais quand on n'obéit pas, on a des ennuis. Frères et sœurs, ne nous laissons pas happer. On ne se laisse pas happer par le monde. C'est ça le message de ce matin. Ne nous faisons pas avoir. Beaucoup se sont fait avoir, beaucoup de frères et sœurs se sont fait avoir. Le monde les a pris, les a ramenés dans le monde. Ils sont aujourd'hui dans le monde et ils ne sont pas plus heureux. Ils sont même malheureux d'ailleurs. Il n'est pas possible de voir un chrétien qui retourne dans le monde et qui est heureux. Moi, je n'ai jamais vu ça. Sa condition est parfois même pire hein, qu'avant. Ne nous laissons pas happer par ce monde qui passe. Fixons nos regards là où notre roi nous attend. Alors, j'espère qu'à partir de ce matin, si ce n'a pas été le cas jusqu'à présent, nous allons chercher à avoir cette vision céleste maintenant. Vivre comme cela. Vivre comme des gens qui sont des étrangers et des voyageurs qui sont en train de partir, qui sont en train de rentrer chez eux, pas des gens qui vont vivre sur cette terre. Que le Seigneur nous aide vraiment à marcher avec lui, qu'il nous aide à avoir les pieds dans la poussière et le ciel et la tête dans le ciel. Voilà, c'est ça le message de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Ne nous décourageons pas. Hein. Nous avons la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Hein. Ne nous décourageons pas. Peu importe ce que nous pourrons traverser, je sais par quoi vous passez. Hein. Voilà, ne vous découragez pas. Nous sommes ensemble, toutes les églises prient pour vous. Hein. Nous allons prier les uns pour les autres. Bientôt, nous allons nous revoir, nous encourager encore. Et nous allons faire cela jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà, jusqu'à la mort. Ouh, là, c'est pas... Bon. Voilà. Jusqu'à la mort aussi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.